Immersion.
Un reportage de Radio Présence.
Mais comment faire pour être heureux ?
Nous sommes au chevet de Saint-Cernin, l'insigne basilique Saint-Cernin.
Jean-Luc Moudinque, maire de Toulouse.
Que le pape Urbain II est venu bénir pour sa conception au XIe siècle et qui est un véritable phare du point de vue de la spiritualité sur l'ensemble de la chrétienté et qui, en nombre de reliques, et la deuxième après Saint-Pierre de Rome. C'est dire l'importance spirituelle depuis longtemps de la basilique Saint-Cernin. Et effectivement, voir cette basilique Saint-Cernin au milieu d'un parking, comme le disait la reine-mère, en réalité, Elisabeth, dans les années 90 à Dominique Baudis, c'était devenu quelque chose à la fois de choquant. Et puis, on s'y était malheureusement quelque peu habitué, il faut bien le dire. Lorsque je suis arrivé aux responsabilités en 2014, conformément à ce que j'avais dit, j'ai travaillé avec Joan Busquets, qui avait été choisi par Pierre Coël, mon prédécesseur, et j'ai dit à Joan Busquets, je vous maintiens dans vos fonctions, mais nous allons donner une inflexion patrimoniale à la commande de la collectivité. Et c'est ainsi que le sujet de Saint-Cernin, qui n'était pas prévu, a été réfléchi et inscrit dans les projets. Et comme c'est un projet très ambitieux, il a fallu effectivement beaucoup de temps.
Ah, extraordinaire, et c'est beau hein, ce qu'ils ont fait. Ah oui, par rapport à ce qu'il était, même les jardins, comme ils l'ont bien restauré, la basilique, elle a été bien restaurée. Parce que je me souviens, c'était moche là où, au début, quand je suis arrivée à Toulouse, il y a 8 ans, avec il y avait les marchands, c'était sale, c'est... et puis voilà, ça a une autre image.
Moi, je suis né à Toulouse et ça donne une autre vision, bien sûr, de cette magnifique basilique. Frappe, c'est qu'on met plus de voitures, qu'il y a un parvis extraordinaire, une place fabuleuse, voilà. Ouais.
Un lieu qui appartient à tous, que chacun peut s'approprier.
Un lieu où j'organise, moi, dimanche, la corrida de Noël. Voilà, on a mis 1500 coureurs dans les rues de Toulouse et on part de la place Saint-Cernin. Voilà, ça va être magique.
Splendide. Et en plus, nous avons eu la chance hier, en sortant du catéchisme, de pouvoir admirer les lumières. On faisait les essais sur les lumières. Donc nous avons déjà vu hier soir l'illumination de la basilique. Et vraiment, ça... Tous les Toulousains seront surpris ce soir, ça va être magnifique.
Ouais, mais ça, c'est la primeur des habitants du quartier. Hein.
Voilà, on a eu les désagréments et on a les avantages.
11h, ce mercredi 11 décembre. À Toulouse, pour assister à l'inauguration du parvis et de la toute nouvelle place Saint-Cernin rénovée, ils sont venus nombreux, très nombreux. Habitants du quartier, paroissiens et autres Toulousains. En dépit d'une forte pluie persistante, la joie se lit dans les regards. Des paroles d'admiration fusent de toutes parts, enfin... presque.
J'habite dans le quartier, donc j'ai suivi les travaux au fur et à mesure de leur avancement et bon, on arrive à la fin. Mm-hmm. Voilà.
Et alors, le résultat, qu'est-ce que vous en pensez ?
Le résultat, je trouve le résultat très intéressant. Effectivement, bon, la basilique est mieux mise en valeur, mais bon, je trouve qu'on cristallise un petit peu trop quand même l'environnement. Voilà. Cristallisé, c'est-à-dire, bon, on a fait disparaître 160 places de parking. Il y a des gens quand même qui vivent dans le quartier, qui vivent et y travaillent. Et donc, ça se ressent. Donc, ça devient effectivement un lieu de visite, mais ça perd un petit peu la notion de lieu de vie, quoi. Voilà. Donc, c'est une vitrine que l'on a créée. Essentiellement pour ce monument qui est très beau hein, au demeurant, mais au détriment quand même d'une petite vie tout autour,
le
marché aux puces, etc. Bon, voilà, tout ça a disparu.
Dans le quartier, autant d'habitants, autant de perceptions différentes. Laetitia habite tout à côté.
À côté, rue Gassier-Arnoux, donc une voisine. Et je suis, en plus, je fais partie de cette paroisse de Saint-Cernin, puisque je suis catholique pratiquante.
Donc, vous avez vu les travaux se mettre en place peu à peu ici ?
Oui, j'ai même observé les artisans avec mon enfant. On a été passionnés sur la découpe des pierres pour refaire les marches de l'entrée. Et on a appris beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'il y avait des bâtiments qui étaient collés à Saint-Cernin, un monastère. Et le gazon représente en fait l'intérieur du monastère et tout ça, je l'ignorais.
Ces travaux financés à hauteur de 91% par la mairie de Toulouse, la DRAC et la région finançant le reste, s'inscrivent dans un plan d'urbanisme plus global. Jean-Luc Moudinc, maire de Toulouse.
L'idée, c'est d'embellir la ville de Toulouse, en mettant en valeur son patrimoine et de manière assez systématique. Voilà pourquoi il y a les quais de la Garonne, il y a la basilique de la Dorade, il y a les abords de la gare, les allées Jean Jaurès, la rue de Bayard, la rue des Lois. Voilà, c'est une vision globale où on met en valeur l'écusson historique, où on végétalise, où on rend de la place aux piétons et où on rend ces espaces beaucoup plus accessibles, beaucoup plus agréables aux Toulousains et puis aussi beaucoup plus agréables aux touristes et aux visiteurs puisque Toulouse, de plus en plus, est une destination touristique.
Alors, pour en revenir plus particulièrement à ce parvis, quel était le constat de départ et puis les objectifs ?
Le départ, c'était que la basilique était totalement envahie de voitures. Et donc, elle n'était pas mise en valeur, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, nous avons supprimé les voitures, on a créé des cheminements piétons, on a pu trouver de la place, du coup, pour planter des arbres. Et donc, ça change totalement l'aspect et les abords de la basilique.
Vous vous êtes heurté, je crois, tout au long de ces travaux à quelques difficultés, notamment en ce qui concerne des fouilles.
Ben disons qu'il y a eu une opinion développée par certaines personnes qui voulaient que, plutôt que de faire les travaux d'aménagement, on passe du temps à fouiller le sous-sol. Et j'ai compris que si on faisait ça, alors l'aménagement ne verrait pas le jour très rapidement et que les Toulousains ne comprendraient pas que les abords de la basilique soient en travaux pour une durée extrêmement importante. Donc nous avons organisé l'aménagement en protégeant les éléments de fouilles, les éléments patrimoniaux qui ont été enfouis au fil des siècles dans les sous-sols, donc ils sont protégés, ce qui est l'essentiel pour moi. Et puis il faut le dire, le projet de réaménagement et de réhabilitation de la place que nous avons conçu, il a été soumis à la commission nationale qui s'occupe du patrimoine, des monuments historiques et qui a donné son avis, et son avis favorable bien évidemment.
Autour de la basilique, s'appuyant sur les valeurs historiques du site, patrimoine commun à tous, quatre espaces de vie sont désormais aménagés. Le parvis Saint-Jean-Paul II, le parvis Miècheville, l'espace historique du logis abbatial et le jardin de l'abside. Valeurs historiques et valeurs religieuses, bien sûr, valeurs intrinsèquement mêlées, qui avec ce tout nouveau parvis Saint-Jean-Paul II, son allée et son buste du père Marie-Antoine, le saint de Toulouse, sa grande croix de mission restaurée, nous rappelle si besoin a été qu'à Toulouse, ce site est ce lieu privilégié, Dieu parmi nous.
Père Vincent, un parvis Saint-Jean-Paul II et une allée du père Marie-Antoine, qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui de la basilique, de la vie paroissiale, de la foi ici à Toulouse ?
Alors ça veut dire que c'est une place vivante, une place qui est donnée à tous les Toulousains et qui porte aussi l'actualité de la vie de l'Église, à la fois la mémoire récente ou un peu plus ancienne avec Jean-Paul II qui est honoré avec l'allée par Marie-Antoine. Et donc c'est l'histoire de Toulouse, l'histoire religieuse qui est marquée. Mais c'est en même temps aussi un espace qui est offert comme écrin à la basilique et qui met en valeur la basilique. Alors moi, comme curé, je me dis aussi que nous avons à occuper ces lieux. Et ces témoignages, aussi comme ils sont marqués par l'autorité publique dans l'espace public, disent la valeur de ce que l'Église apporte à la ville, à la cité. Donc ça doit être aussi un encouragement pour nous que nous annoncions l'Évangile, que nous parlions de ce que nous avons, ce que nous vivons pour enrichir notre ville aujourd'hui de l'Évangile.
Oui, parce qu'évidemment, ce parvis, c'est un espace commun à tous. Et cette basilique, ce parvis, appartient à tous, à tous les Toulousains. Chacun doit s'y sentir chez lui.
Alors, cette place est un véritable écrin maintenant pour la basilique. C'est pas trop tôt. Merci, monsieur le maire. Mais c'est vrai qu'on s'étonnait de ne pas avoir valorisé cet espace avant. Et donc ça, c'est vraiment une grande satisfaction. Et puis, il y a la mémoire de ce lieu, de son histoire, qui est évoquée avec l'évocation du cloître, avec les délimitations qui, sur le jardin surélevé, reprend le plan des bâtiments abbatiaux.
Laetitia,
vous avez vu les travaux se mettre en place peu à peu ici ?
Oui, j'ai même observé les artisans avec mon enfant. On a été passionnés sur la découpe des pierres pour refaire les marches de l'entrée. Et on a appris beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'il y avait des bâtiments qui étaient collés à Saint-Cernin, un monastère. Le gazon représente en fait l'intérieur du monastère et tout ça, je l'ignorais.
Ce qui me paraît important pour nous...
Père Vincent Gallois, curé de la basilique Saint-Cernin.
Comme chrétien, comme vie dans une vie de paroisse, c'est de savoir occuper ces lieux pour la liturgie. Elle n'est pas simplement enfermée dans les murs de l'église, c'est aussi une action qui fait le pont entre l'extérieur et l'intérieur, entre la vie quotidienne et la prophétie de la vie céleste. Voilà, donc c'est aussi pour nous une responsabilité, une ambition de faire vivre véritablement notre vie liturgique à cheval sur l'espace public et l'espace intérieur de l'église.
Se ressourcer à l'intérieur de la basilique pour mieux aller annoncer cette bonne nouvelle à l'extérieur.
Exactement, mais il y a un aller-retour incessant parce que c'est Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils et donc nous sommes aussi appelés à cette sortie, hein, c'est l'Église en sortie comme le pape François en parle, mais aussi à inviter et à accueillir, parce qu'il y a quand même 800 000 visiteurs chaque année à la basilique, et eux, ils viennent de l'extérieur, ils arrivent. Donc il faut véritablement qu'ils voient une Église vivante, une Église parlante. C'est ça mon ambition.
Pour Robert Monnier, médecin psychiatre à la retraite au service du diocèse de Toulouse, ce nom de parvis Saint Jean-Paul II est un nom qui engage.
Quant à Jean-Paul II, c'est l'émission. Et puis surtout, c'est le oser. Il faut savoir oser, ne pas avoir peur de nous-mêmes d'abord, et du qu'en dira-t-on, de ce que nous représentons, nous sommes, et pas avoir peur d'être... persécuté. Donc c'est ce parvis Jean-Paul II, c'est aussi une forme de tolérance. Tolérance dans l'acceptation de la multiplicité des personnes et des croyances, et puis l'importance de la mission.
Et pour Jean-Luc Moudinc, maire de Toulouse.
Jean-Paul II a été une très très grande figure, et nous avons voulu l'honorer, bien évidemment. Nous avons pensé que ce qui était le plus naturel, c'est que ça soit le parvis de Saint-Cernin. Et donc là aussi, on a pris la décision il y a quelques années, mais on a attendu que le chantier se fasse pour inaugurer.
Un peu plus de 11 heures, inauguration et déambulation autour de la basilique.
Alors, il y a deux choses à voir ici. La croix sur la gauche qui a été
oui.
La croix rénovée. Hein. D'abord, on commence par la plaque.
L'année 90, elle avait été retirée, puis elle a quelque peu oublié dans les réserves. Ça ne fait plus la rouille ayant fait son travail.
Donc ça fait plus de 20 ans qu'elle était.
Plus de 20 ans.
Oui,
plus de 20 ans.
Elle est
ressuscitée. Vous voyez, la résurrection, c'est la preuve.
Voilà. Alors on va faire l'inauguration. Allez, 1, 2, 3.
Bravo.
Allez, Rappelez-vous sur la photo, hein, avec un Marie-Antoine. Recevons les bénédictions de l'eau de Lourdes. Au bon Marie-Antoine.
Au bon moment.
Voilà, allez, on poursuit le cheminement.
Et à l'arrière, maintenant, on va entrer dans le jardin qu'on a élargi. C'est un jardin qui existait déjà. Et donc là, on a vraiment créé un jardin qui peut être utilisé et pour s'asseoir et être tranquille. Donc, je propose qu'on avance, faire le tour.
On vient de passer devant un emplacement qui est l'endroit où sont disposés les enfeux des comtes de Toulouse. Alors, c'est vrai que ce n'était pas dans le programme de restauration, donc c'est peut-être pas dans le programme de commentaire de la visite, mais enfin, j'ai souhaité que, puisqu'on rénove tout le pourtour, on rénove l'enfeu des comtes, qui était vraiment dans un état assez abominable. Voilà. Donc, les enfeux eux-mêmes ne sont pas là, ils sont en cours de restauration, mais on a refait l'ensemble qui avait beaucoup souffert d'humidité, on a refait également le grillagement, et d'ici quelques mois, vous avez une photo dessous. Évidemment, les enfeux seront replacés. Il y en a trois hein, au total. Voilà, je voulais juste dire ça, parce que tout de même, les comtes de Toulouse, ça compte, n'est-ce pas?
Est-ce que M. Sébastien Langlois est présent?
Bonjour à tous. Donc, je suis Sébastien Langlois, sculpteur, et j'ai fait ce buste du père Marie-Antoine. C'est un capucin assez incroyable. Quand les jardins seront ouverts...
En sculptant ce buste du père Marie-Antoine, qu'est-ce que vous avez voulu mettre en lumière, donner à voir à tous ceux qui vont passer sur ce parvis, aux Toulousains et puis aux autres, bien sûr?
Le père Marie-Antoine, c'était quelqu'un certainement d'assez particulier. Et la création même de sa sculpture a été l'objet d'une rencontre incroyable. J'ai rencontré... Un sculpteur qui s'appelle Paul Pasquito, qui était un grand sculpteur et qui a été à l'origine finalement de la création de ce buste, puisqu'il a fait pendant plusieurs mois une très belle sculpture du père Marie-Antoine. Et un jour, en fait, cette sculpture, à cause du gel, il était en train de la créer. Elle était finie, elle était très bien, elle était vraiment parfaite. Et cette sculpture a été détruite, littéralement. Tout est tombé par terre. Et malheureusement, il était très âgé, il était très malade, il était touché par une maladie très grave et il n'a pas pu recommencer cette sculpture. Et j'ai essayé avec lui pendant quelques temps de l'affiner, mais il m'a dit non, cette sculpture, Sébastien, je voudrais que ce soit toi qui la fasses. Et il m'a aidé, il m'a expliqué qui était le père Marie-Antoine, il m'a fait avancer un peu à la façon d'un maître qui laisse la place à un apprenti. Il m'a guidé jusqu'à cette sculpture. Voilà. Et c'était l'objet d'une très belle rencontre. Voilà. Et aujourd'hui, le père Marie-Antoine, c'est ce lien aussi avec Lourdes. C'était une sculpture que j'avais mise à Lourdes aussi sur le chemin de croix. Et c'était un moment très très fort. Et le fait d'avoir un nouvel exemplaire ici, c'est évidemment un moment très fort pour moi. C'est le plus bel écrin qu'on puisse imaginer. Voilà, je veux surtout remercier Jacqueline Baillet qui a fait créer ce buste finalement, parce que c'est elle qui a lancé ça et qui s'est battue pour qu'il puisse avoir ce chemin autour de qui porte son nom. Et voilà, c'est une belle aventure pleine de belles rencontres.
Vous-même, le père Marie-Antoine, il vous a interrogé, il vous a questionné, il est venu vous rejoindre, vous retrouver dans votre vie.
Alors figurez-vous que lorsque j'ai fait le buste du père Marie-Antoine, quand je l'ai commencé, en quelques jours, j'avais terminé quelque chose qui me plaisait mais qui n'était pas parfait. Il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Et pour la première fois de ma vie, un matin, en revenant dans l'atelier, tout était par terre à nouveau. Tout était par terre. J'ai recommencé à zéro et en quelques jours, j'ai refait la sculpture différemment. Et là, il y avait quelque chose qui parlait et qui était, je pense, ce que je recherchais, certainement l'image du premier buste qui avait été fait. Voilà, donc ça, c'était ce premier lien. Et cette citation dont j'ai parlé tout à l'heure, que j'ai écrite à l'envers sur le buste, en miroir, « Le cœur d'une mère est un chef-d'œuvre de Dieu ». Je trouve ça merveilleux parce qu'effectivement, qu'est-ce qu'on peut imaginer de plus beau que ce lien entre une mère et un enfant? Il y a tout dedans et en même temps, ce besoin de faire grandir, de protéger, d'accompagner. Et voilà, je pense que c'est un peu ça aussi qu'avait fait Paul Pasquito en passant le relais.
tu fais partie de l'association du père Marie-Antoine depuis 7 ans, donc voilà, je suis invitée.
Vous avez une histoire particulière, un lien avec cette basilique ?
Ah oui, quand j'étais, parce que je suis toulousaine hein, à l'origine, et je venais prier à Saint-Cernin avec ma maman. Le matin, on assistait à la première messe à Saint-Cernin, donc voilà, c'est toute ma jeunesse, mon adolescence.
Donc c'est important pour vous d'être ici aujourd'hui ?
Très très important d'être là, d'assister à l'inauguration du parvis Saint-Jean-Paul II, allée du Père Marie-Antoine. Je suis très sensible aussi du Père Marie-Antoine, qui a bercé toute mon enfance par mes parents, parce que j'ai une aïeule qui a rencontré le Père Marie-Antoine. Et elle en a toujours parlé dans la famille. Après, ça s'est dit de génération. Et c'est pour ça que maman m'a menée à la côte pavée sur la tombe du Père Marie-Antoine. Donc, c'est une longue histoire.
Donc, il veille un petit peu sur Toulouse, ici.
Ah oui. Et c'est le Saint de Toulouse. Il nous protège. À ça, j'en suis persuadée. Hein, qu'il nous protège. Et puis, je n'oublie pas Sainte-Germaine de Pibrac aussi.
Oui, donc je suis le frère Éric Bidot, le provincial des Capucins. Donc, je suis venu de Paris pour... cette belle journée, cette inauguration.
Quel est le lien entre le père Marie-Antoine et la basilique Saint-Cernin ? Pourquoi cette stèle ? Pourquoi ce buste ici ?
Alors, il y a plusieurs raisons. D'abord, le père Marie-Antoine appartient, entre guillemets, à la ville de Toulouse, puisqu'il était prêtre de ce diocèse quand il est rentré chez les Capucins. Et à la fin de son noviciat, les supérieurs l'ont envoyé ici pour bâtir un nouveau couvent. Quand il est arrivé à Toulouse, il est venu d'abord prier ici la Vierge Marie, Notre-Dame de la Bonne Nouvelle, si mes mémoires sont est bonnes, et le premier évêque de Toulouse, donc Saint-Saturnin. Et c'est ici donc qu'il est venu prier et confier son projet. Et on pourrait dire que finalement cet acte de prière a eu ensuite une fécondité non seulement à travers le couvent, mais aussi avec toutes les relations. Et puis, quand on parle du Père Marie-Antoine, c'est donc Saint-Cernin, c'est le couvent des Capucins de la Côte Pavée, où sont les Carmes maintenant, mais c'est aussi sa prédication, et puis c'est enfin toute cette relation qu'il avait avec beaucoup, beaucoup de gens, et notamment les pauvres de la ville, qui le reconnaissaient et qui avaient une affection pour lui, parce qu'il avait une affection pour eux.
C'est la piété populaire qui l'a sanctifié.
Exactement. Il y a le frère Augustin, qui est un dominicain ici sur Toulouse, qui dit... Le père Marie-Antoine, c'est entre le curé d'Ars et la cordère. Donc voilà, ça dit à la fois cette dimension d'une prédication, d'une parole forte, et puis d'un homme proche, très proche des gens, et dont les gens n'avaient pas peur, et que les gens aimaient venir rencontrer, écouter, recevoir un conseil de lui, etc.
Et pour vous, Capucin, aujourd'hui, ce visage, cette présence du père Marie-Antoine, qu'est-ce qu'elle vous dit ? Elle vous guide ? C'est un veilleur ? C'est un phare ?
Ben, le père Marie-Antoine, c'est un frère aîné, d'abord. Pour moi, c'est important parce que c'est-à-dire que c'est un des maillons de la vie capucine, franciscaine à travers l'histoire. Alors, c'est un maillon, effectivement, qui brille. Hein. Tous brillent d'une certaine manière, mais lui particulièrement. Parce que en lui, en fait, il a ces deux dimensions qui, pour nous, sont très importantes à travers tous les temps et de manière diverse. C'est à la fois un homme mystique, c'est-à-dire un homme qui a une véritable expérience de Dieu, au quotidien, dans la fidélité à la prière, d'un cœur ouvert. Et puis deuxièmement, un missionnaire, c'est-à-dire quelqu'un qui, auprès des pauvres, auprès des personnes qu'il rencontrait, témoignait en fait fortement de sa foi. Donc à ce titre-là, c'est une belle figure, un beau frère aîné.
Si la ferveur populaire l'a déjà proclamé saint depuis longtemps, un procès en béatification réouvert depuis quelques années semblerait être en phase d'aboutir.
Donc on attend dans les mois qui viennent un peu le verdict de l'Église sur cette figure. Et l'inauguration d'aujourd'hui y participe parce que ça veut dire que le père Marie-Antoine fait partie en 2019 de la vie des Toulousains.
De la vie d'aujourd'hui, de la vie actuelle, exactement, il est toujours d'actualité.
Exactement, exactement. Et
son message, toujours d'actualité ?
Ben, son message, voilà, c'est un message de proximité. Le pape, quand il nous a reçus en septembre 2018 pour les Capucins, il a dit « Soyez des hommes de proximité ». Soyez proches des gens et que les gens soient proches de vous et par vous, bah, ils auront une relation à Dieu qui leur appartient, qui leur est personnelle. Avec le père Marie-Antoine, on a tout à fait ça et on a ça encore aujourd'hui.
Mais pour aujourd'hui, le dernier mot appartient au maire de Toulouse.
Le père Marie-Antoine, c'est une figure un peu oubliée. C'était le saint de Toulouse. Il a été un des principaux prédicateurs du pèlerinage de Lourdes à la suite des apparitions. Il est mort en 1907, donc ça fait un certain temps. Et il a eu à son époque un impact considérable qu'on ne soupçonne pas aujourd'hui. Et donc nous avons voulu l'honorer.
Un saint qui aujourd'hui veillerait peut-être sur la ville de Toulouse.
Écoutez, je ne sais pas si on peut dire ça, parce que tout de même, on n'est pas là pour détrôner Saint Saturnin.
Non, bien sûr, Saturnin restera à jamais le premier évêque de Toulouse. Quant à sa basilique, vous pourrez désormais chaque soir à la nuit tombée la découvrir dans ses nouveaux habits de lumière. Ce mercredi 11 décembre au soir, Jean-Luc Moutinque inaugurait en effet le nouvel éclairage de la basilique Saint-Sernin.